Alors, ce matin, je vous avoue qu'on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Parce que, exceptionnellement, on ne va pas étudier ensemble un texte de la Bible. Ne prenez pas peur, enfin pas trop. C'est simplement que dans la suite du film qu'on vous a proposé lundi soir, il m'a semblé intéressant de voir avec vous quelles sont les sources historiques qui parlent de Jésus. Si vous n'étiez pas là, lundi soir, on a proposé un film où c'est l'histoire d'un gars qui enquête sur Jésus. Il veut montrer que Jésus n'a pas pu ressusciter. Et alors, il va faire des recherches historiques. Et moi, je vous propose de reprendre un petit peu ensemble cette démarche. Un petit peu. Alors voilà, on ne va pas étudier ensemble un texte de la Bible. La Bible ne va pas être absente de ce que je vais vous dire, parce que vous allez voir que je ne vais parler en fait que de ça. Et puis on a veillé aussi avec Olivier ce que le texte biblique soit vraiment présent dans la première partie de ce qu'il a préparé. Mais ces trucs que je vais vous dire ce matin, d'habitude on n'en parle jamais dans l'Église. Et je trouve que c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est évidemment pas une telle recherche historique qui va convaincre quelqu'un de qui est Jésus. Ok ? Mais c'est bon pour nous de voir qu'il y a des indices forts et des indices concordants qui nous poussent à croire qu'on a raison de croire qu'on croit. D'accord ? Et qu'en fait, on n'est pas complètement à côté de la plaque, tout simplement. Je crois que c'est important de le dire aussi dans l'Église. Alors voilà. Est-ce que ça marche ? Merci. Est-ce qu'il existe des documents, des sources historiques, en dehors du Nouveau Testament, bien sûr, qui nous parlent de Jésus ? Oui, oui, il y en a. Il y en a. C'est pour ça que la très grande majorité des historiens vont reconnaître que Jésus a vraiment existé. Qu'il y a bien eu un homme qui est né aux alentours de moins 4, qui s'appelait Yeshua, qui est né en Judée, qui a vécu en Galilée, qui a beaucoup fait parler de lui, qui a été crucifié par les Romains. Après, évidemment, les historiens ne vont pas parler de résurrection, hein, ils ne vont pas parler de fils de Dieu. Alors, ces documents qui parlent de Jésus, on va en étudier certains. On va commencer par les documents d'origine romaine, c'est-à-dire les plus éloignés de Jésus. Hein. Rome, c'est l'autre bout du monde habité. Hein. Mais il y a même des documents romains qui parlent de Jésus. Ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, parce que Rome a autre chose à faire que de s'occuper d'un rabbi juif. Mais on remarque quand même que le nom de Jésus est allé jusqu'au bout du monde. Très rapidement, le nom de Jésus s'est proclamé jusqu'au bout du monde. Le premier document, c'est un document de Tacite. Tacite est un historien romain. Il écrit aux alentours de l'année 115, à peu près. Lisez pas tout de suite, regardez-moi. Commencez pas sans moi. Il va parler, vous savez qu'à un moment donné, Rome a été incendiée. C'était sous l'empereur Néron. Et Néron, et en fait, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi Néron était à l'origine de cet incendie. Alors, comment est-ce que Néron a étouffé cette rumeur ? Lisons Tacite ensemble maintenant. Pour dissiper cette rumeur, Néron substitua les accusés et frappa de peine les plus raffinés, ces gens odieux en raison de leur infamie que le vulgaire appelle chrétien. Les gens odieux, c'est les chrétiens, hein. L'auteur de ce nom de chrétien, l'auteur de ce nom, Christ, sous la domination de Tibère, avait été mis à mort sous le procurateur Ponce Pilate. Et cette détestable superstition, qui avait été étouffée sur le moment, éclatait à nouveau, non seulement à travers la Judée, point de départ de ce fléau, mais à travers Rome, où affluent et se propagent de tous côtés les abominations et les ignominies. Il est sympa, Tacite. Hein. Il est sympa, Tacite. On voit bien que c'est pas un pro-chrétien, d'accord ? Au minimum, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Okay. Mais, ce document est quand même très intéressant. Il parle de Christ. Je l'ai mis un peu en couleur, hein, je ne sais pas si vous voyez. Il parle de Tibère, il parle de Pilate, il parle de la mise à mort du Christ, et il parle de la propagation du message de l'Évangile, l'évangélisation des premiers chrétiens. C'est quand même déjà intéressant. Un deuxième document, romain toujours, qui nous vient de Suétone. Suétone, c'est quelqu'un qui va écrire la vie des 12 empereurs. Et quand il parle de la vie de l'empereur Claude, il évoque des troubles qui ont eu lieu à Rome en l'an 49. Et voilà ce qu'il dit. Comme les Juifs provoquaient constamment des troubles à l'instigation de Crestus, l'empereur les chassa de Rome. Alors, les historiens se demandent, mais ce Crestus, qui donc est-il ? Et la plupart des historiens pensent que, en fait, il faut comprendre Christus. Parce que Crestus, en latin, ça veut dire quelque chose, mais Christus, ça veut rien dire. Et donc, il aurait changé ça pour un nom qui évoque quelque chose, qui veut dire quelque chose en latin. Les spécialistes pensent que le fait qu'il emploie le mot Crestus, c'est un gage d'authenticité. Ça veut dire que ça n'a pas été truqué. Ça veut dire que ça n'a pas été rajouté par des chrétiens ou par, dans le fil de l'histoire par des disciples de Jésus. Donc c'est plutôt un gage d'authenticité. C'est intéressant, notre histoire-là. Parce que dans la Bible, on parle de cet épisode. Ça vous dit quelque chose ? Acte 18, verset 1. Paul va à Corinthe. À Corinthe, il rencontre Aquilas, je lis, qui est originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Acte 18, verset 1. Intéressant, non ? Encore un témoignage romain, c'est celui de Pline le Jeune. Pline le Jeune, lui, c'est un homme politique, il est gouverneur de Bithynie, il écrit vers l'an 110, il parle des chrétiens et il dit « Ils s'assemblent un jour marqué avant le lever du soleil et ils chantent ensemble un hymne au Christ, comme à un Dieu. » Très intéressant de voir que très rapidement, on remarque qu'on prie Christ comme un Dieu. Voilà pour les sources romaines. Maintenant, on va se rapprocher un petit peu plus de Jésus avec les sources qui sont d'origine juive. Il y en a beaucoup plus. Je ne peux pas toutes les voir, on va en voir simplement deux, les deux principales, qui nous viennent du même auteur, du même bonhomme, qui s'appelle, le connaissez-vous ?
Joseph.
Non, on ne le connaît pas trop bien sur la photo, je ne sais pas très ressembler. Joseph ou Flavius Joseph. Joseph est donc juif, il est né en 37, ça veut dire qu'il est quasiment de la même époque que Jésus. Hein. C'est quelqu'un de la haute société juive, il est passé par les meilleures écoles, l'école des pharisiens, l'école des sadducéens et l'école des esséniens. Rien que ça, je crois que c'est les trois grandes écoles de l'époque. En l'an 64, il va à Rome, en mission diplomatique, pour rencontrer l'empereur. Donc c'est pas n'importe qui. En 66, je ne sais pas si vous savez, ou si vous avez réalisé, en 66, il y a une révolte à Jérusalem. Jérusalem va être anéantie par les Romains. Il y a une révolte, les Juifs se révoltent contre les Romains. Et Joseph prend la tête d'une rébellion. Mais la rébellion se fait écraser par les Romains. D'après ce qu'il dit de lui-même, Joseph, il est le dernier survivant de son groupe. Et là, il y a toute une histoire rocambolesque, je pourrais vous raconter, mais là, j'ai pas trop le temps, si vous le voulez. Finalement, il va trahir les Juifs et se retrouver au service de l'empereur. Donc, il va rentrer à Rome avec Titus. Titus, c'est le général qui a écrasé Jérusalem, et Titus va devenir empereur. Joseph va être fait citoyen romain, et même, il va prendre le nom de famille de l'empereur, pour vous dire que Il devient très proche de l'empereur. Donc il est coincé à Rome, il ne peut pas rentrer, c'est un traître. Il ne peut pas rentrer à Jérusalem, enfin en Judée, Jérusalem n'existe plus. Il est fait. Et c'est là, c'est à Rome donc, qu'il va écrire un livre qui s'appelle Guerre et un autre livre qui s'appelle Antiquité juive. Et il va raconter ce qui s'est passé à cette époque. Alors qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, c'est-à-dire le témoignage de Flavius. C'est le témoignage le plus important en dehors des évangiles qu'on a, qui nous parle de Jésus. Le problème, c'est que ce texte qu'on va lire là, il nous est arrivé au travers des chrétiens. Il a transité par des chrétiens et par l'Église. Et alors les spécialistes se demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été rajoutées par des chrétiens dans ce texte? Alors ils font le tri. Ce qu'on va lire ensemble, c'est la version courte, là où on pense avoir enlevé ce qui vient des chrétiens, mais il y a encore deux phrases sur lesquelles il y a un doute. C'est des phrases qui sont en vers et en italique. Nous allons le lire ensemble. À cette époque, vécut Jésus, un homme exceptionnel, s'il faut toutefois l'appeler un homme. Là, on n'est pas sûr, c'est peut-être le faire ajouter cette mention-là. Car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil de doctrine de bon aloi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et les Hélènes. Les Hélènes, ce sont les Grecs. Déjà très intéressant, parce que Flavius, Joseph, il meurt en l'an 100. Ça veut dire qu'il écrit peut-être à 90, ça veut dire qu'à cette époque-là, les Actes, ça termine en 62, à cette époque-là, on voit déjà que parmi les Juifs et parmi les Grecs, le message est répandu. C'était le Christ. Ça, on met de côté, on a un doute. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate lui condamnait à la croix, ceux qui lui avaient donné son affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que mille autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, ne s'est pas tari la lignée de ceux qu'à cause de lui, on appelle chrétiens. Très intéressant, ce document. On voit que Joseph est très bien renseigné. Il parle de Jésus. Il parle de Pilate, de la croix, des disciples, le fait qu'on dise qu'il est de nouveau vivant, il est ressuscité, que ses disciples continuent à l'aimer. On parle aussi des miracles de Jésus, des choses prodigieuses. Beaucoup de choses très intéressantes dans ce document-là. Un deuxième document de Joseph. C'est à un moment donné, il va raconter que, Joseph va raconter qu'en l'an 62, il y a un changement de pouvoir en Judée. Et il y a le grand prêtre Anne qui va en profiter pour mettre à mort Jacques. J'avais dit Mathieu, donc c'est Jacques. Jacques, le frère de Jésus. D'ailleurs, suite à cet épisode, parce que le grand prêtre Anne n'a pas respecté la loi en mettant à mort Jacques, suite à cet épisode, il va être démis de ses fonctions. Anne. Et voilà ce que Joseph dit de cet épisode-là. Anne convoqua les juges du Sanhédrin et traduit devant eux le frère de Jésus appelé Christ, son nom était Jacques, et quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour qu'ils soient lapidés. Deux choses intéressantes. Cet épisode, on le retrouve la Bible, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est que c'est la manière dont Jacques est présenté. Vous avez vu? Le frère de Jésus appelé Christ, son nom était Jacques. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est jamais comme ça qu'on présente les gens dans la tradition des Juifs. Jamais on présente quelqu'un pas en fonction de son frère, en fonction de son père. Chez les Juifs, on n'est pas frère de quelqu'un, on est quelqu'un. Je suis fils de Roger, fils de Raoul. C'est ça, comme ça que je devrais me présenter, moi. D'accord ? Mais là, Jacques est présenté comme étant le frère de Jésus, appelé Christ. Ce qui veut dire que Jésus, très certainement, était très connu. Et que ça, il y a une raison pour laquelle on présente Jacques en fonction de son frère. C'est qu'on savait qui c'était. C'était quelqu'un d'important, de connu, de reconnu. À l'époque, le Flavius Josèphe. Voilà, il y aurait encore d'autres sources juives, mais ça, c'est les deux plus importantes. Je ne veux pas y passer trop de temps, parce que je voudrais maintenant qu'on parle d'autres sources encore. Est-ce que vous imaginez lesquelles ? Bien sûr. Pardon ?
Grec.
Ouais. Ah non, alors, oui, le grec. Oui, en fait, il y a, je ne crois pas qu'il y ait de source grecque à proprement parler qui vient de la tradition grecque. Par contre, alors ça on y vient après à la fin, mais la source principale concernant Jésus, c'est la grande source, la nôtre. C'est les évangiles. C'est les évangiles. On ne peut quand même pas ne pas en parler. Sauf que la grande question, c'est est-ce que les évangiles sont fiables ? Et ça, c'était aussi une question importante qu'on a vue dans le film de lundi soir. Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui est vraiment fiable ? Est-ce que les manuscrits des évangiles sont fiables ? Et je crois qu'on peut dire que, oui, bien sûr, le Nouveau Testament a été conservé avec, d'une manière exceptionnelle si on compare à d'autres écrits de la même époque. Et là encore, moi je trouve ça passionnant, mais on n'en parle jamais dans l'Église. Et c'est tellement dommage, parce qu'il faut dire que nous avons une bibliothèque exceptionnellement bien conservée, exceptionnellement bien. Et j'espère vous le montrer maintenant. Pour voir si les manuscrits sont fiables, il y a deux grands critères. Le premier, c'est le nombre de manuscrits qu'on a. Plus on en a, mieux c'est. Vous imaginez bien. Deuxième grand critère, c'est quel écart de temps entre la rédaction et le manuscrit qu'on a aujourd'hui. La première rédaction, la rédaction originale, et le manuscrit qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Plus cet écart est petit, mieux c'est, vous imaginez. Alors on va comparer quelques écrits de la période de l'Antiquité. Vous avez déjà rencontré Tacite, alors je vous le remets là. Tacite, il écrit en 100, à peu près. Le manuscrit le plus ancien qu'on a à notre disposition aujourd'hui date de l'an 1100, ça vous fait un écart de 1000 ans. On a à peu près 20 exemplaires des écrits de Tacite aujourd'hui. La guerre des Gaules de César. Vous connaissez, n'est-ce pas ? C'était l'époque de Astérix. Hein. Il écrit entre moins 58 et moins 50. Le manuscrit le plus ancien qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est 900. Un écart de temps de 950 ans. On a entre 9 et 10 manuscrits. Les amis, il n'y a personne qui doute de l'authenticité de la guerre des Gaules de César. Moi, je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Pour tout un tas d'auteurs grecs classiques, Tite Live, mais aussi Platon, Démosthène et beaucoup d'autres, grosso modo, l'écart est de 1000 ans à chaque fois. Il y a juste, je signale juste pour Virgile, un écart est plus faible, 350 ans environ, c'est un peu l'exception. L'Iliade d'Homère, ça je l'ai mis parce qu'il en parlait dans le film, il y a plus de manuscrits, 1500, mais un écart de temps beaucoup plus grand. Le Nouveau Testament, maintenant, qui est écrit entre l'an 40 et l'an 100, nous avons un écart de temps de 30 ans pour petit morceau le plus ancien qui est à notre disposition et de 300 ans pour le Nouveau Testament complet à notre disposition. Nous avons 5800 manuscrits grecs. C'est tout à fait considérable. Tout à fait considérable. Nous avons à notre disposition une bibliothèque exceptionnellement bien conservée. Et je ne rajoute pas les manuscrits qui ont été traduits dans d'autres langues, parce que dès le départ, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu répandre le message. Ils ont traduit ça en araméen, en copte, en latin. Si je rajoutais ces traductions, on serait à des dizaines et des dizaines de milliers de manuscrits. Le Nouveau Testament est conservé, est parvenu jusqu'à nous d'une manière tout à fait remarquable. Dieu a veillé à la transmission de sa parole jusqu'à nous aujourd'hui. Je trouve ça génial. Je vous propose de faire connaissance avec quelques-uns de ces manuscrits célèbres. Voici son petit nom, P52. Il en parlait dans le film. C'est lui, là, ça me faisait marrer à chaque fois, il le sort de sa bibliothèque, il l'époussette, comme ça. En fait, vous imaginez bien que ce manuscrit est dans un coffre-fort quelque part, parce qu'il est absolument exceptionnel. C'est un papyrus. Papyrus, ça veut dire... C'est une plante, hein. Le papyrus, vous connaissez. Ça veut dire que c'est un support végétal, hein. On écrit sur du papier, nous aussi c'est végétal, sauf qu'il y a plein de produits chimiques. Non, ce n'était pas le cas à l'époque, donc ça se conserve très très mal, le papyrus. Très 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 mal. Un petit peu d'humidité et schlac, il est mort. Vous voyez plus rien, il tombe en miettes. On a moins de 100 papyrus à nos jours du Nouveau Testament. On a 95, je crois, quelque chose comme ça. Tout petit, cette taille-là, recto verso, hein, là vous voyez les deux faces. Mais extrêmement important, c'est le manuscrit le plus ancien qu'on a à notre disposition. Il date de l'an 125 à peu près. C'est un petit morceau de l'évangile de Jean. Quelques mots, mais on est sûr, c'est vraiment l'évangile de Jean, chapitre 18, on a retrouvé, hein, le passage. L'évangile de Jean, il date de l'an 95. Hein. C'est un écrit assez tardif. Ça veut dire qu'on a un écart de 30 ans. 30 ans, je ne sais pas si vous imaginez, enfin, moi je ne suis pas très vieux, mais 30 ans, c'est rien. 30 ans entre la date où ça a été écrit et le premier manuscrit qu'on a aujourd'hui, en 2018, à notre disposition. C'est rien du tout. Allez, un autre manuscrit. Voici le Codex Sinaiticus. Alors, là, c'est plus un papyrus, c'est un parchemin. Donc le support, c'est de la peau tannée. Hein. Donc c'est un support beaucoup plus résistant, mais aussi beaucoup plus long à obtenir. C'est un travail énorme et ça avait un coût faramineux à l'époque, hein, le parchemin. C'est un codex, ça veut dire que, vous voyez, ça ressemble à un livre. Hein. Le parchemin a été découpé et relié. C'est ça qu'on appelle un codex. Sinaiticus, parce qu'il a été découvert.
Sinaiticus.
Vous êtes très fort.
Vous pouvez pas dire toujours.
Il date de l'an 350. C'est donc le manuscrit complet du Nouveau Testament, le plus ancien qu'on a à notre disposition, avec un autre codex qui s'appelle le Codex Vaticanus. Celui-ci, là, il est conservé à Londres. Je ne sais pas si vous voyez pas bien là, mais il est d'une extrêmement bonne qualité. C'est-à-dire que vous pouvez l'exploiter quasiment en entier. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de morceau qui manque. C'est vraiment de très très bonne qualité. Tous ces manuscrits dont je vous parle, ils sont tous, bien tous, répertoriés, décryptés l'un après l'autre, minutieusement, par une armée de chercheurs, une armada de chercheurs à qui on doit énormément, nous, aujourd'hui. Tout ça a été passé au peigne fin. Toutes les notes, toutes les marges, les ratures, les réécritures par-dessus. Sur le parchemin, c'était tellement cher, le parchemin, que parfois, le parchemin a été gratté. Il y a un codex, un livre comme ça, entièrement gratté du début à la fin, le codex d'Éphrem, il est à Paris. Il y avait deux tiers du Nouveau Testament complètement gratté, on a réécrit quelque chose par-dessus. On le passe au rayon X et on retrouve le texte du Nouveau Testament. Tout est passé au peigne fin de manière archi-minutieuse. Ce qui fait que quand je prends mon Nouveau Testament grec aujourd'hui, je sais exactement quel manuscrit porte quel texte. Je sais tout. Tout est marqué. Tout est répertorié. Je peux dire, il y a un manuscrit qui porte tel mot, et puis 12 manuscrits très importants qui portent tel autre mot. Il y a une petite variante, il y a une lettre qui a été mal répertoriée, ou le copiste s'est trompé. Ça peut arriver. Tout ça est répertorié minutieusement, ce qui fait qu'on peut déterminer avec une grande précision et une grande rigueur ce qui était le texte original. Il y a quelques questions qui restent. Le travail continue à être fait. Il faut en tenir compte. Quand vous ouvrez vos Bibles, vous avez des fois une petite note. Ce mot est absent de tel ou tel manuscrit. Ou bien un petit passage entre crochets, on n'est pas tout à fait sûr. Rien de fondamental concernant la foi. Mais nous pouvons dire que le texte du Nouveau Testament a été déterminé avec une très grande certitude, une très grande fiabilité, grâce à tout ce travail monumental. Je fais une petite parenthèse, parce que mon ami Michel, là, tout à l'heure, il a parlé des manuscrits de Qumran, et je peux pas, si je parle de manuscrits, je ne peux pas ne pas parler de ça. Mais je passe très rapidement. Je vous présente un autre manuscrit très très célèbre. C'est le fameux rouleau d'Isaïe, retrouvé à Qumran. Alors je sors un peu du sujet, on ne parle pas de Jésus là, imaginez. Mais pendant très longtemps, le texte de l'Ancien Testament qui était à notre disposition datait du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire vers l'an 800 à 900. Quand on a retrouvé les manuscrits de Qumran, on a fait un bond de 1000 ans en arrière, parce que les manuscrits datent de l'an moins 200 à moins 100. Mais on s'est aperçu que le texte que nous avions jusque-là correspond très bien à ce qui a été retrouvé à Qumran, et des savants qui pensaient qu'il y avait beaucoup de modifications qui ont été rajoutées dans le Moyen-Âge se sont rendus compte qu'en réalité, le texte que nous avions déjà était de très bonne qualité. Et je crois qu'on peut dire que, avec les écrits de Qumran, on peut aussi savoir que le texte de l'Ancien Testament est très fiable. D'une manière générale, ces recherches modernes nous montrent que le texte que nous avons à notre disposition est très très bon, très fiable et très proche des manuscrits originaux. Je conclue. Dieu a veillé à nous transmettre sa parole. Dieu a montré sa puissance et sa souveraineté, j'en suis convaincu, en transmettant sa parole fidèlement pour qu'elle nous arrive jusqu'à nous aujourd'hui en 2018. Elle a traversé les siècles, cette parole, et nous est arrivée d'une manière fidèle et fiable. Le psaume 12, verset 7, dit « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. » Tout ce que je vous ai dit, ça m'évoque ça. J'ai l'impression que cette parole est affinée, purifiée, et nous est parvenue d'une manière pure jusqu'à nous aujourd'hui, grâce à la souveraineté de Dieu. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul que ce que nous avons là, toute l'écriture que nous avons là, nous croyons qu'elle est inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu. Et il a veillé à ce qu'elle nous parvienne conformément à sa volonté. Elle est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Je vous invite à prier. On est reconnaissant, Seigneur, tellement reconnaissant, nous voyons vraiment l'expression de ta puissance et de ta grâce envers nous. Parce que nous croyons que tu as veillé à ce que ta volonté exprimée d'une manière pure dans ta parole, nous croyons que ta volonté nous est parvenue, et qu'elle nous est parvenue sans être déformée, qu'elle nous est parvenue d'une manière pure. Et nous l'avons à notre disposition, cette parole. On constate, Seigneur, que tu as veillé à ce qu'elle nous parvienne bien mieux que tous les autres manuscrits qui datent des époques semblables. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, à ne pas passer à côté de ce trésor que tu nous as fait parvenir. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser interpeller, à nous laisser bousculer, à nous laisser percuter par ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu te révèles. Tu te révèles par ta parole. Quand on lit ta parole, c'est toi qu'on voit. Alors c'est notre prière, Seigneur. Aide-moi à te voir. Que ton nom soit loué. Amen.